Je parle du Conseil européen. Il faut donc faire attention à ça. Mais revenons au sujet du Conseil de l'Europe. Il a été créé par le traité de Londres le 5 mai 1949, qui a été signé par 10 États fondateurs, Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. Dans le cadre de promouvoir les droits de l'homme, en 1950, on a établi la Convention européenne sur les droits de l'homme qui entre en vigueur en 1953. Pour pouvoir contrôler le respect effectif des droits de l'homme, la Convention a institué la Cour européenne des droits de l'homme en 1959, dont je vais parler tout à l'heure. Le Conseil de l'Europe est une institution qui assure la coopération entre les pays membres, notamment dans les domaines de la protection des droits de l'homme et du renforcement de la démocratie. Quels sont donc les objectifs principaux du Conseil de l'Europe? Premièrement, c'est de défendre les droits de l'homme. Deuxièmement, c'est de rechercher des solutions aux problèmes communs, ça veut dire lutter contre le racisme, contre la xénophobie, contre le terrorisme, contre la corruption, mais aussi, par exemple, la protection de l'environnement. Troisièmement, c'est de développer la stabilité démocratique en Europe. Et enfin, le Conseil de l'Europe veut favoriser la prise de conscience de l'identité culturelle de l'Europe et de sa diversité. Actuellement, le Conseil de l'Europe regroupe 47 États membres, dont les 27 États sont les États membres de l'Union européenne. On y compte tous les États européens, à l'exception de la Biélorussie, et c'est à cause de sa région politique. Quelle est donc la structure de cette organisation? Le Conseil de l'Europe est localisé à Strasbourg. Ce lieu est un peu symbolique parce que c'est un symbole de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça montre un peu l'amitié franco-allemande. Les deux langues officielles du Conseil de l'Europe sont l'anglais et le français. Le Conseil de l'Europe se compose de plusieurs organes. Je voudrais vous citer le Comité des ministres, rassemblant les ministres des Affaires étrangères des pays membres, et l'Assemblée parlementaire, dont les membres sont les députés désignés par les parlements nationaux. Quelles sont donc les compétences du Conseil de l'Europe? Premièrement, ce sont les compétences de la coopération politique et juridique qui s'expriment à travers des conventions qui sont réalisées par le Conseil. Les États qui sont un peu plus développés en ce qui concerne la démocratie peuvent aider aux autres États à la mise en œuvre de la démocratie. Je parle par exemple des pays de l'ancienne Yougoslavie, etc. Deuxième fonction, c'est la protection des droits de l'homme, qui est liée à l'existence de la Convention européenne sur les droits de l'homme et notamment à la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous ai déjà dit que pour pouvoir contrôler le respect de la Convention, on a créé la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une cour internationale qui siège à Strasbourg. Le nombre des juges correspond au nombre d'États membres du Conseil de l'Europe, donc actuellement c'est 47 juges. Il faut dire que les juges siègent à titre individuel et ne représentent pas leurs États. Ils sont donc obligés à être indépendants et impartiaux. La Cour applique la Convention européenne sur les droits de l'homme. La Convention se fonde sur certains principes de base. D'abord, c'est un principe de solidarité. Ça veut dire que les États ont décidé de travailler ensemble dans les questions de droits de l'homme. Deuxième principe, c'est le principe de la souveraineté. Et troisièmement, c'est le principe de l'effectivité. Ça veut dire que la Cour souhaite que les droits soient effectifs dans les pays membres, donc que les droits seront réellement réalisés et respectés dans les pays membres. La tâche de la Cour donc, consiste à veiller à ce que les États respectent les droits et garanties énoncés dans la Convention. Elle le fait en traitant des plaintes déposées par des individus et parfois aussi par des États. Si la Cour constate qu'un État membre a violé un ou plusieurs de ses droits et garanties, elle rend un jugement. Et les jugements sont contraignants pour les pays. Les pays en question ont donc le devoir de les respecter. Les décisions sont obligatoires pour les États, mais la Cour n'a pas le droit de modifier directement les législations des États. Maintenant, je vais vous citer quelques droits de base que la Convention garantit. Donc, c'est le droit à la vie, le droit à la liberté d'expression, ce qui est par exemple une des raisons pour laquelle la Biélorussie n'est pas encore le pays membre du Conseil de l'Europe. Troisièmement, c'est par exemple le droit à un procès équitable, droit à respect de la vie privée et familiale, ou droit à la liberté du mariage. Par contre, qu'est-ce que la Convention interdit? C'est la torture et des traitements inhumains, l'esclavage, la discrimination de tous les types, l'usage des restrictions aux droits ou la peine de mort. Vous pouvez vous poser la question peut-être si la Convention a évolué ou si elle est toujours la même qu'en 1953, quand elle a été ratifiée. Bien sûr, la Convention évolue. Elle évolue par ses protocoles additionnels. Par exemple, en 2003, on a ajouté un protocole relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances. Enfin, pour vous donner un exemple de quel type de plainte la Cour européenne pour les droits de l'homme se charge, je vais mentionner la cause de Eva Michalakova. Je pense que vous vous en souvenez. Cette cause a commencé en 2011, quand les autorités norvégiennes ont décidé que les enfants ne vont pas vivre avec leur mère. Après toute une série de différends avec les autorités norvégiennes, Eva Michalakova a décidé de déposer une plainte devant la Cour européenne des droits. C'était cette année, en 2018, et on aura un résultat d'ici à 6 mois. Je vous remercie pour votre attention.